Chers fidèles auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver. J'ai choisi de vous offrir aujourd'hui une émission en hommage au professeur Jérôme Lejeune. Pourquoi ? Parce que voici 100 ans, c'était la naissance du professeur Jérôme Lejeune. Donc le titre de cette émission est le suivant. 100 ans après sa naissance, hommage au professeur Jérôme Lejeune, membre de l'Institut, généticien ardent défenseur de la vie. Et pour traiter de ce sujet, de cet hommage, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Aude Dugast, D-U-G-A-S-T, philosophe de formation, auteur d'un ouvrage sur le professeur Jérôme Lejeune et surtout postulatrice de la cause de canonisation du vénérable Jérôme Lejeune. Et puis à ses côtés, Jean-Marie Lemenné, gendre du professeur Jérôme Lejeune, magistrat honoraire, président de la fondation Jérôme Lejeune. Et puis à mes côtés également, Jean Larmande, administrateur de société, secrétaire général du Cercle Renaissance. Et puis, bien évidemment, vous en avez l'habitude, mon invité permanent, vous le connaissez, il s'appelle Jean de La Fontaine. Il n'était pas aisé de trouver une fable de La Fontaine en relation avec le professeur Lejeune, mais j'ai retenu quand même une fable qui est très belle, qui est la fable du livre 8, fable 17, « L'âne et le chien », et je vous en donne lecture. « Il se faut entraider, c'est la loi de nature ». L'âne un jour pourtant s'en moqua, et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays accompagné du chien, gravement sans songer à rien. Tous deux suivis d'un commun maître, ce maître s'endormit. L'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré dont l'herbe était forte à son gré. Point de chardon pourtant il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat. Et faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre Baudet s'en sut enfin passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim, lui dit « Cher compagnon, baisse-toi, je te prie, je prendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse, mot, le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdît un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille. Enfin, il répondit « Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans faute à son réveil ta portion accoutumée, il ne saurait tarder beaucoup. » Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient. Autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et cours. » que si ce loup t'atteint, casse-lui la mâchoire, on t'a ferré de neuf, et si tu veux me croire, tu l'étendras tout plat. Pendant ce beau discours, Seigneur Loup étrangla le baudet sans remède, je conclus qu'il faut qu'on s'entraide. Voilà donc cette fable de La Fontaine, et ceci d'ailleurs me donne l'occasion de souligner que notre ami Yves Taranty, qui fut longtemps d'ailleurs un patron d'émission à Radio Courtoisie et qui est administrateur de la Société des Amis de Jean de La Fontaine, vient de publier aux éditions Thierry Sajat un ouvrage qui s'intitule « Poèmes et fables » à partir justement de fables de La Fontaine. Et peut-être tout à l'heure je vous donnerai lecture d'une de ces fables assez amusante. D'ailleurs, tant qu'à faire, je vais évoquer quelques ouvrages dignes de votre intérêt avant que nous n'abordions le sujet de notre émission. À signaler que vient de reparaître la réimpression du livre de Jean de Viguerie, Louis XVI, Le Roi Bienfaisant, paru chez Lithos Histoire. Et puis également, toujours Jean de Viguerie, qui fut un auditeur et un ami de Radio Courtoisie, on a publié récemment, Jean de Viguerie, Un historien face à l'Église, texte inédit, préface de Mgr Jean-François Amyot, c'est paru chez DMM Dominique Martin Morin. Voici donc pour quelques lectures qui méritaient votre attention. Et puis je rappelle que j'ai écrit autrefois, mais il y a un certain temps, lorsque j'étais membre du Parlement, j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule « Lettre ouverte à mon peuple qui meurt », donc Michel de Rostelan, « Lettre ouverte à mon peuple qui meurt », paru chez Sorlot et Lanor. Voici, c'est un ouvrage que l'on peut encore trouver d'ailleurs sur Internet, voilà, dans lequel j'ai évoqué tous mes combats pour la défense de la vie à l'Assemblée nationale. Et puis, avant d'aborder le sujet, je voudrais souligner que le jeudi 23 avril prochain, retenez bien cette date, chers amis auditeurs, le jeudi 23 avril prochain, à 18h30, à Drouot, il y aura une vente caritative au profit de la Fondation Jérôme Lejeune. Si vous pouvez vous libérer et participer à cette vente, donc le jeudi 23, c'est l'étude Libert, L-I-B-E-R-T, qui organise cette vente en liaison avec la Fondation Jérôme Lejeune, que préside précisément notre ami Jean-Marie Lamennais, ici présent dans ce studio. Donc le jeudi 23 avril à 18h30 à Drouot, vente caritative au profit de la Fondation Jérôme Lejeune. Et je sais, chers amis auditeurs, je sais que vous serez généreux. Voici donc pour l'évocation de cette émission, et je me tourne tout de suite vers Jean-Marie Lamennais. Jean-Marie Lamennais, vous présidez la Fondation Jérôme Lejeune, j'ai déjà eu le plaisir de vous accueillir dans ce studio à Radio Courtoisie, mais surtout, vous avez été longtemps patron d'émission à Radio Courtoisie. Je vous laisse la parole. Et vous présenterez et vous donnerez également les coordonnées et l'adresse de la Fondation Jérôme Lejeune.
Oui, merci de votre invitation renouvelée. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir à la radio, non seulement parce que j'ai été un temps patron d'émission et que Aude Dugas, à mes côtés d'ailleurs, m'a beaucoup aidé pendant de nombreuses émissions. Et aussi, c'est un plaisir d'y revenir parce que, historiquement, Jean Ferré aimait beaucoup Jérôme Lejeune et avait souvent reçu Jérôme Lejeune, dans le studio bien sûr, mais aussi il avait l'habitude de l'appeler le dimanche midi, je ne me souviens plus pourquoi, où quelqu'un l'appelait de Radio Courtoisie le dimanche midi, ce qui était un peu compliqué parce que c'était le repas de famille à Chalot-Saint-Marc, où nous évoquions tout à l'heure, l'endroit où il a été enterré.
Absolument.
Et en tout cas, Jérôme Lejeune se pliait toujours à cet exercice, pensant que c'était son devoir pédagogique de toujours parler de ces questions. Et il le faisait bien, et la radio aimait beaucoup Jérôme Lejeune, et c'était réciproque. Donc, nous sommes entre amis, comme aurait dit Jean Ferré. Et cette émission, nous la devons à Jean Ferré parce qu'à la fin de sa vie, enfin je la dois moi, la petite émission que j'ai faite pendant quelques années, quand même peut-être une dizaine d'années, est partie de la maladie de Jean Ferré. Il a été malade, comme vous le savez, affaibli, donc il ne pouvait plus assurer ses émissions. Et il nous avait demandé de le remplacer pour quelques émissions. Et donc on tournait, il y avait Jean Sevilla, il y avait Lidwine Scordia. Et donc on tournait comme ça, et à la fin, on a fait ça pendant quelques mois, le temps de sa maladie, et après, quand il est décédé, on nous a proposé en remerciement en quelque sorte une émission de Radio Courtoisie qu'on a faite fidèlement dans le souvenir de Jean Ferré, qui était quand même un grand personnage.
Absolument,
il faut le rappeler.
Absolument.
Pour ceux qui l'ont connu.
Tout à fait. Et vous avez raison d'évoquer le souvenir de Jean Ferré. J'évoque d'ailleurs, dans cette année 2026, j'ai organisé récemment une émission de pour le centenaire de la naissance d'une autre personnalité proche de Radio Courtoisie, qui était née en 1925, c'était Jean Raspail.
Ah oui.
Et puis mon ami également, auquel j'étais très lié politiquement, Philippe Malot, était né également en 1925. Mmh. Donc il y avait effectivement une richesse humaine dans ces années 25-26, mmh. qu'il méritait d'être souligné. Mais j'aimerais que vous nous parliez un peu précisément justement de cette fondation Jérôme Lejeune, et après nous évoquerons évidemment le procès en canonisation du vénérable mmh. Jérôme Lejeune. Mais parlez-nous un petit peu de la fondation Lejeune. Qui est à l'origine? Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est Birte Lejeune, votre belle-mère, qui a poussé à la création? Est-ce que voilà?
Oui, alors le centenaire, ça montre que Jérôme Lejeune est devenu un homme historique. C'est devenu un personnage historique.
Absolument.
Voilà. Maintenant, c'est assez banal d'être centenaire, mais ça fait un chiffre rond, c'est toujours une bonne occasion de reparler des choses. Il est devenu vraiment un personnage historique parce qu'il a une histoire. Il a une histoire qui lui est propre, une histoire qui est d'ailleurs un peu romanesque. On l'évoquera. Son histoire est une série de rebondissements avec une application personnelle très forte, pas uniquement sur le plan professionnel, mais sa vie elle-même a été malmenée et soumise à différents aléas dans les combats qu'il a menés. Et de ce fait, après sa mort, très rapidement après sa mort, on a été conduit à créer une fondation qui est venue assez spontanément à l'esprit de sa famille ou de ses amis.
Parce qu'il était très attaqué, il faut le souligner. Alors justement,
très attaqué de son vivant.
De son vivant.
De son vivant, à cause de l'avortement.
Absolument.
Bon, puisque, s'il faut le rappeler, Jérôme Lejeune a été le découvreur de la trisomie 21.
Absolument.
Et après, il a été combattu parce qu'il a pris position contre l'avortement de ses patient trisomique, parce que là, vous souvenez que la proposition de loi Perret, qui n'a pas été votée, oui. Grâce à Pompidou, parce que, voilà, et cette proposition de loi visait, pour commencer, les enfants handicapés qu'on pouvait dépister. On pouvait les dépister d'abord parce que morphologiquement, il y avait commencé à avoir des images d'échographie, et puis on pouvait décompter le nombre des chromosomes. Donc on s'est dit, pour la première fois, on va pouvoir attraper, avant la naissance, des enfants dont on pourra prédire qu'ils sont handicapés, etc. Et Lejeune s'est élevé vigoureusement contre cette loi qui, disait-il, va tuer ses patients. Donc je ne peux pas accepter, moi, en tant que médecin, qu'on tue mes patients. Je ne peux pas me prêter à ce jeu-là.
Alors justement...
Et la loi n'a pas été votée.
À ce sujet, précisément, vous avez lancé une intense action de publicité pour la défense de la vie. Et récemment, dans le Figaro Magazine, vous avez publié un magnifique encart soulignant que face à l'aide à mourir, vous étiez, vous, pour l'aide à vivre. Mmh. Et ceci me paraît particulièrement important, et je dirais que j'aimerais que les auditeurs de Radio Courtoisie, et je sais qu'ils sont nombreux à vivement apprécier le professeur Jérôme Lejeune, fassent un geste justement pour vous aider à amplifier cette campagne de publicité que vous faites à un moment où va repasser au Parlement cette criminelle proposition Falorni, dite d'aide à mourir, en réalité, qui est une euthanasie, un suicide assisté. Je ne peux pas ne pas évoquer cela dès lors que l'on parle du professeur Lejeune, qui était attaché au respect de la vie,
du
de la conception
à la mort naturelle. Ouais. Et c'est d'ailleurs important de le rappeler, parce que quelquefois, les gens nous disent, mais à la Fondation Jérôme Lejeune, vous occupez des handicapés, qu'est-ce que vous avez à faire avec à vous exposer inutilement sur le terrain de la fin de la vie? Et en réalité, il faut bien se souvenir que Jérôme Lejeune a parlé aussi de l'euthanasie, bien sûr. Il écrivait d'ailleurs le mot euthanasie avec un Z, ce qu'on n'oserait même plus faire maintenant. Donc, et il s'était beaucoup battu, en particulier avec un autre grand ami de Radio Courtoisie et de Jean Ferré, qui s'appelait Lucien Israël. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
bien sûr, mais,
professeur
mais,
Lucien
mais,
Israël.
Mais c'est précisément Lucien Israël qui a préfacé le livre de notre ami Tarantique, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est Lucien Israël, le professeur Lucien Israël, qui lui a remis le prix Renaissance de poésie en son temps. Donc effectivement, vous avez raison de souligner...
C'était aussi, je crois, un homme de 1926, parce que je crois qu'ils étaient de la même classe d'âge.
Oui. Et un poète.
Un homme de lettres. C'était un personnage qu'on a bien connu à la Fondation, qui est resté très, très ami avec nous au début de la Fondation, et qui nous a bien aidé, comme Jean Foyer, toute cette génération-là, qui a fréquenté les studios, Pierre Chaunu, enfin...
Bien sûr.
Donc, tout ça pour revenir sur le... Non, mais vous avez raison de souligner le lien avec l'euthanasie. De toute façon... Moi, j'ai assisté à beaucoup des débats à l'Assemblée nationale comme Audoucy. J'ai été auditionné à plusieurs reprises à l'Assemblée et au Sénat sur la question de la fin de vie. La Fondation en tant que telle a été auditionnée. Et nous avons invoqué le fait que seraient éligibles ce mot-là est terrible, on serait éligible à l'euthanasie aussi les personnes avec un handicap qui vont vieillir, qui auront des Alzheimer, qui n'auront plus de parents, qui seront pauvres, enfin, tout ça, c'est des conditions d'éligibilité évidentes. Et on a manifesté sur ce terrain-là notre désaccord et notre engagement pour
la vie. Et sans parler de la pression psychologique sur les personnes âgées ou assez affaiblies.
C'est facile de récupérer un consentement dans ces conditions-là.
Tout cela a un aspect financier assez nauséabond, comme le soulignait d'ailleurs Jean-Claude Martinez, qui soulignait justement que plus on pique, plus la sécurité sociale s'enrichit.
Je vais juste là-dessus.
Oui, Jean Lormande.
L'aspect psychologique, c'est-à-dire d'expliquer à quelqu'un qui est malade que la fin de sa vie est proche, fait qu'ils vont souvent mourir beaucoup plus vite. J'avais, si vous me permettez une expérience personnelle, j'avais un grand-père qui était professeur à la faculté de médecine et qui, à la fin de sa vie, s'était fait opérer. Bon, je passe là-dessus, puis je le vois, il était à Nice, il était revenu d'Algérie. Et lui, comment ça va? Il me dit, oh, pas très bien, parce que je ne sais pas qu'il avait opéré. Il m'a opéré comme un cochon, je vais être obligé de repasser sur la table d'opération. Bon, donc, je vois le Hitz, c'était mon parrain, et je lui dis ça. Il me dit, mais ton grand-père a passé sa vie à prendre des compléments alimentaires maintenant contre le cancer. Il en a un élève de troisième année diagnostique. Si on lui dit qu'il a un cancer, il est mort dans la semaine. Si on lui dit rien, il va encore vivre. Il a encore vécu un an et demi.
De fait, j'ai vu
la psychologie est fondamentale pour l'être humain.
Oui, j'ai lu une publication scientifique il n'y a pas très longtemps qui disait exactement ça, qui comparait des patients un peu en fin de vie, mais non, enfin en situation grave, et à certains, on leur disait « vous en avez pour un mois à vivre », et d'autres, on ne leur disait pas. Et bien, ceux-là vivaient plus longtemps. Ils étaient soignés aussi bien, et il n'y avait aucune pression euthanasique dans un sens ou dans l'autre. Mais chez ceux qui savaient qu'en fait, a priori, ils n'en avaient plus pour longtemps à vivre, de fait, ils mouraient en quelques semaines. Et les autres, plus longtemps.
Alors, je ne vous cache pas que c'est la conjonction de cet anniversaire de la naissance du professeur Jérôme Lejeune, évoqué notamment lors d'une messe qui a été prononcée la semaine dernière à Paris, et le fait que doit repasser à l'Assemblée nationale ce débat sur la fin de vie, c'est la conjonction de ces deux éléments qui m'a poussé à organiser et à vouloir vous accueillir ainsi que Aude Dugast, singulièrement au moment également où l'on parle de la cause de canonisation du vénérable professeur Jérôme Lejeune.
Juste un mot, si vous permettez, sur l'euthanasie, il est extrêmement frappant de voir que dans l'argumentaire des parlementaires, et en particulier de M. Falorni et de ses amis, la référence à l'avortement est permanente.
Oui.
Et dans l'exposé des motifs du projet de loi, de la proposition de loi, il y a toujours, naturellement, comme nous avons eu le courage de faire une très grande loi sur le début de la vie permettant l'avortement, il faut aussi qu'à la fin de la vie, nous fassions par parallélisme la même chose. Et l'image de l'avortement est très souvent convoquée à l'appui des arguments. D'un air de dire, en fait, on a bien été capable de faire l'avortement, on sera bien capable de faire l'euthanasie. Ce sont les mêmes arguments.
Mais
l'eugénisme, évidemment.
Les origines sont dans les mêmes ateliers.
Absolument. Oui.
Et Jérôme Lejeune l'avait bien vu, évidemment, puisqu'il disait l'IVG, c'est l'interruption d'une vie gênante, et là, je n'y fais rien. Absolument. Au début ou à la fin de la vie, ce sera le même problème.
Tout à fait, tout à fait. Alors, la Fondation Jérôme Lejeune, ses objectifs sont d'abord ses coordonnées. Est-ce qu'on peut l'aider? Et bravo pour cette campagne que vous faites actuellement, pour qu'il va certainement recevoir l'appui également d'auditeurs de Radio Courtoisie.
Ah ben je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie sont toujours très généreux. Il faut qu'ils le soient aussi à l'égard de la radio.
Absolument.
Voilà. À tout seigneur, tout honneur. La Fondation Jérôme Lejeune, elle est 37 rue des Volontaires, dans le 15e arrondissement. Voilà. Et bien sûr, on sera très sensible à votre générosité, qui est d'autant plus nécessaire que la Fondation, depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, ne reçoit pas d'argent public, on n'a aucune subvention. Donc c'est vraiment une fondation qui marche avec la générosité de petits donateurs. Je dis petits donateurs parce que
c'est une fondation d'utilité publique.
D'utilité publique, ah oui, non.
Donc ça donne des avantages fiscaux.
Tout à fait, bien sûr, voilà.
Pouvez-vous les évoquer?
Écoutez, je ne l'ai pas présent, mais c'est des avantages fiscaux classiques. Enfin, c'est n'a rien d'extraordinaire, sauf que
des
en plus
des dons qu'on fait.
Voilà. Et non, ce qu'on a de plus, c'est la déductibilité des dons qu'on fait pour l'impôt sur la fortune immobilière, pour l'IFI. Et ça, c'est spécifique. Et alors, je dis ça parce qu'on rentre dans la période de l'IFI. Pour ceux qui ont des biens immobiliers, là, on peut donner son argent à la fondation, enfin, ou à une autre une fondation reconnue d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas pour les associations ordinaires. On ne peut pas bénéficier de, enfin, les associations ne peuvent pas bénéficier des dons qui sont faits pour échapper à l'IFI. Ouais. Donc ça, c'est très important parce que souvent, les gens qui ont un peu de fortune immobilière, bon, ils peuvent donner un peu plus que les autres. Voilà. Donc ça, c'est important. Et on a aussi la possibilité d'avoir des legs, mais ça, d'autres oui. associations peuvent aussi avoir des legs.
Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais vous savez que j'ai présidé pendant plus de 50 ans le Cercle Renaissance, et le président d'honneur du Cercle Renaissance était Mgr Virgile Georgiou, d'origine oui. roumaine, orthodoxe.
Ami de Jérôme Lejeune aussi, d'ailleurs.
Un grand ami de Jérôme Lejeune, bien sûr, et surtout Virgile Georgiou et son épouse ont donné leur héritage à la fondation Jérôme Lejeune.
Oui, mais je m'en souviens très bien. Oui. Non, mais c'était très généreux de sa part. Je me souviens de l'avoir rencontré aussi. Je continue sur la fondation en disant que historiquement, elle s'est créée, ce que je disais tout à l'heure, juste après la mort de Lejeune, parce qu'on a constaté qu'il y avait un besoin, une demande. On n'a pas fait ça pour le porter sur les hôtels à l'époque, mais parce que il y avait une demande en particulier de ses patients et de surtout des familles de ses patients. Il a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort en 4 mois, donc il était encore consultant à Necker enfant malade, donc il avait ses familles, et tout d'un coup, ils ont vu qu'il avait disparu et qu'il était mort. Donc il y a eu une sorte de mouvement très spontané de la part des familles qui le suivaient en disant, mais qui va soigner notre enfant, qui n'est d'ailleurs plus tout à fait un enfant maintenant. On était soigné par Jérôme Lejeune depuis 10, 20, 30 années. On est abandonné en quelque sorte. Et on a été très surpris de voir des tonnes de courriers qui sont arrivés rue Galland chez les Lejeune, et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc la première chose qu'on a voulu faire, c'est recréer une consultation médicale scientifique, médicale, telle qu'il la faisait lui. Et on se disait que le véhicule le plus adapté à ça, c'était de créer une fondation. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est doté d'une fondation reconnue d'utilité publique. Et puis, petit à petit, on a développé aussi la recherche, parce qu'il était scientifique aussi, et qu'il voulait les guérir, donc il fallait faire de la recherche. Et en même temps, puisqu'il défendait la vie, on fait ce qu'on appelle maintenant du plaidoyer. C'est un thème qui fait moins peur. Du fait du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on est aussi l'avocat de ces personnes porteuses de trisomie 21 qui font l'objet évidemment du dépistage, comme chacun sait, dans des conditions dramatiques, puisque tous ceux qui sont dépistés avant la naissance, à hauteur de 95 ou 96%, finissent avortés. Donc ces trois verbes-là, chercher, soigner, défendre, qui sont vraiment ce que faisait Jérôme Lejeune, mais on a commencé très concrètement par la consultation, parce que ça nous paraissait la chose la plus concrète et la plus immédiate et urgente à faire.
Alors dans le domaine précisément de la recherche, j'ai très bien connu, j'ai même été avec elle jusqu'en Irak pour voir l'état dramatique des enfants à l'hôpital de Bagdad à l'époque de l'embargo. J'ai très bien connu Madame Rétoré, oui. Anne-Marie Rétoré, qui est une femme merveilleuse et qui était donc le bras droit, un des bras droits du professeur Jérôme Lejeune au point de vue de la recherche, qui était membre de l'Académie de médecine, et une personne extrêmement attachante.
Elle a travaillé chez nous jusqu'à la fin de sa vie. On a même dû lui conseiller de partir, parce qu'elle a continué à consulter jusqu'à 90 ans, donc c'était plus très sérieux.
Fabuleuse. Oui.
Alors on a décroché petit à petit, mais elle a vraiment donné toute sa vie à cette cause.
Oui. Et il était légitime que nous rendions hommage également à Madame Rétoré.
Il faut le faire.
À l'occasion de cette émission.
Bien sûr.
Parce que vraiment, c'était...
Et c'est Jérôme Lejeune qui a présenté la candidature de Marguerite Rétoré, alors qu'il était lui-même malade. Et vous savez, on doit être plus ou moins parrainé. Mmh. Et donc, il est venu quasiment sur un brancard, parce qu'il était vraiment à la fin de sa vie, à l'Académie de médecine, porté par une chaise. Et c'est là qu'il a proposé la candidature de Marie Odile, qui n'a pas été élue la première fois, mais qui a été élue l'année suivante. Et pour elle, c'était une fin de carrière très honorable pour elle, parce que c'est vrai, toutes ces femmes qui ont été un petit peu sous...
Alors, elle a pu rapporter justement de ce voyage que nous avions fait dans des conditions très difficiles, en Irak, sous embargo, elle avait pu rapporter des éléments, des documents, et voire même des photographies d'enfants qui avaient été irradiés par des balles aériennes, des balles d'avion, qui étaient chargées d'une façon
nucléaire. Les radiations ionisantes, comme on disait.
Et ces enfants qui étaient nés...
L'uranium appauvri,
et dont les parents avaient été touchés, et dont les enfants qui étaient nés de parents ayant été touchés par...
Mais c'était les premiers travaux de Jérôme Lejeune, d'ailleurs. Je crois que c'était sa thèse en médecine. il avait fait des travaux sur les radiations ionisantes et donc nucléaires.
Mario Di Loretore a fait un exposé à l'Académie de médecine à son retour d'Irak, justement.
Voilà, c'est ça. Mais c'était leur première compétence à lui et à elle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été, projeté aussi très tôt dans le monde international, parce qu'il a été nommé expert à l'ONU sur justement les conséquences. Il y avait, Hiroshima n'était pas si vieux, hein, on était au début des années 50. Hein. Donc, c'était sa première compétence, effectivement, mais c'est intéressant de rappeler historiquement tout ça.
Avant que je ne passe la parole à Aude Dugas, j'aimerais que vous rappeliez les coordonnées de la Fondation Jérôme Lejeune.
Alors, c'est 37 rue des Volontaires, Paris 15e.
Et de toute manière, sur Internet, on peut trouver...
Ah, tout de suite, oui.
Fondation Jérôme Lejeune. Alors, nous allons évoquer cette démarche que vous faites, le fait que vous soyez postulatrice de la cause de canonisation du vénérable Jérôme Lejeune, qui est déjà en cours de béatification, il était reconnu vénérable. Alors, Madame Dugas, je crois que vous avez été formée à l'IPC en particulier, notamment.
Oui, exactement.
L'Institut de philosophie comparée, tout voilà. Ça me rappelle l'époque d'Achille Dauphin-Meunier, tout c'était... Enfin,
Moi, j'étais avec André Clément, c'était notre doyen.
Bien sûr.
Aline Lisotte, à l'époque, j'ai encore eu Aline Lisotte, chance. D'excellents professeurs, tout c'était excellent.
Marcel aussi, c'était un ami.
Il venait nous faire une conférence une fois par an. Jean-Marie Meyer et Jérôme Lejeune venaient aussi une fois par an faire un cours.
Et alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur le professeur Jérôme Lejeune. Alors rappelez les coordonnées de cet ouvrage.
Alors il y a une biographie Jérôme Lejeune, La liberté du savant, qui est sorti en 2019 aux éditions Arthège. Et puis après j'ai fait un autre ouvrage sur Jérôme Lejeune, le portrait spirituel au fil des vertus. Donc là, qui est un ouvrage un peu plus concis et qui vraiment nous plonge directement au cœur de sa spiritualité et sa sainteté, qui est sorti aux éditions Salvatore en 2021, je crois. Voilà. Il y avait un petit ouvrage avant Prier 15 jours avec Jérôme Lejeune, qui était le tout premier ouvrage que j'ai écrit sur Jérôme Lejeune. Et donc, c'est cette petite collection qui, en 15 courts chapitres, permet de rentrer à la fois dans la biographie du personnage et dans ses pensées et quelques méditations.
Alors, on va évoquer l'aspect religieux, l'aspect chrétien du professeur Jérôme Lejeune et le fait qu'il se soit lié au pape Jean-Paul II, lequel est venu s'incliner sur sa tombe à Chalot-Saint-Marc, et qui avait fait du professeur Jérôme Lejeune le président, le fondateur et le président de l'Académie
pontificale pour la vie.
Et je dois dire à ce sujet, avant d'écouter votre remarque, vos réponses, je dois dire que personnellement, je suis assez choqué lorsque je regarde par exemple le dernier numéro du Figaro Magazine où je vois l'actuel président de la République la main dans la poche, conversant avec le pape actuel, avec le pape Léon XIV, de même qu'il tutoyait son prédécesseur, le pape François Ier. Je dois dire que cette attitude, je ne sais pas, mais devant une autorité religieuse, moi j'ai eu l'occasion d'être... J'ai été présenté au pape Jean-Paul II, je me suis incliné, j'ai baisé son anneau pascal, son anneau qui représentait d'ailleurs la croix de Malte. J'en ai encore le souvenir vivant. Et devant d'autres personnalités, d'autres religions, j'ai toujours eu une attitude de respect. Je ne comprends pas que le président de la République soit la balle dans la poche devant le pape. Je ne comprends pas. Bon, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie seront également aussi étonnés que moi. Enfin voilà, ça c'était un petit agacement dont je ne pouvais pas ne pas faire part aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Je crois qu'il y avait un président précédent qui avait répondu au téléphone en présence du pape.
Ah oui.
Il faut le faire, ça
oh
aussi. Non, mais bon, voilà, ça nous paraît des éléments d'éducation de base, mais visiblement, c'est plus si répandu.
Mais justement, l'éducation, c'est un des éléments. Ouais. Lorsqu'on s'appelle Radio Courtoisie, on a le souci de la courtoisie. Et puis, je rappelle toujours que Radio Courtoisie défend l'histoire, défend la géographie, défend la défense de la langue française. Et je suis de ceux qui combattent vigoureusement un animal bizarre qui est apparu et qui se promène sur les ondes actuellement, qui s'appelle le celzesseux. C'est absolument insupportable. C'est insupportable. Mes chers amis auditeurs, dénoncez systématiquement les celzesseux.
Et toutes et tous.
Et chacun et chacune.
Chacun et chacune. Ou chacune et chacun.
Chacune et chacun.
Mais tout ça devient insupportable. Ces personnes ne connaissent pas la langue française. C'est quand même dramatique. Et il faut souligner, et ceci nous ramène à Jean de La Fontaine, qui est davantage connu et apprécié en Afrique que dans la France contemporaine, je parle du monde de des instituteurs, je dois dire qu'on parle mieux, même présentement, le français en Afrique francophone que sur le territoire français.
C'est probable, oui.
Le territoire français, c'est ça qui est dramatique. Enfin, voilà, cette petite digression sur le celles et ceux, mais ça méritait quand même d'être souligné, surtout au micro de Radio Courtoisie. Mais, Dugas, je vous laisse la parole pour évoquer justement cette cause de canonisation du vénérable professeur Lejeune.
Alors, cette cause s'est ouverte maintenant en 2007, donc ça fait déjà presque 20 ans. Elle s'est ouverte non pas du tout par la volonté de la famille ou même de la Fondation Lejeune. Moi, quand je suis arrivée à la Fondation en 99, je me souviens que déjà, on me disait... en fait, beaucoup de gens ont demandé l'ouverture du procès de canonisation de Jérôme Lejeune dès sa mort, le jour de sa mort. Mais la famille n'a jamais voulu intervenir parce que, justement, elle ne veut pas pousser... Soit il y a un vrai désir d'église, soit pas, et ça se fera naturellement.
Et c'est la fama sanctitatis, on peut aussi parler latin à Radio Courtoisie.
Voilà.
Je pense que les auditeurs ne seront pas choqués.
On ne met pas de pièces dans le cochon quand c'est du latin,
non, ça va.
Voilà, la réputation de sainteté. Et donc le jour même de la mort de Jérôme Lejeune, il y a eu une pétition en Amérique latine de 50 personnes qui avait été écrite à Rome en demandant l'ouverture du procès de canonisation. Donc ça, c'était vraiment très spontané et immédiat. Et c'est vrai que dans les archives de la famille Lejeune, donc que j'ai pu consulter et même étudier dans le cadre du procès de canonisation, on a trouvé des milliers de lettres de personnes qui évoquaient la sainteté de Jérôme Lejeune. En des phrases très belles d'ailleurs. Et aux États-Unis, notamment, il y a eu des courriers et beaucoup d'évêques ont écrit aussi en parlant de Jérôme Lejeune comme étant notre mère Teresa dans le domaine de la santé, oui. Notre mère Teresa sur le plan de la génétique, une lumière, un phare dans la nuit de la pensée. Donc avec des phrases très fortes. Voilà, donc ça, très vite après la mort de Jérôme Lejeune.
Teresa, d'ailleurs, nous avons publié un article d'elle-même dans la publication Renaissance. A combattu l'avortement d'une façon extrêmement virulente, extrêmement...
Et très publique, même à l'ONU.
Absolument. Oui,
on ne pouvait pas demander la paix dans le monde si on ne faisait pas déjà la paix entre la mère et l'enfant.
Si on ne s'occupe pas de défendre les plus faibles, bien sûr.
Et puis c'est vrai qu'au lendemain de la mort du professeur Lejeune, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, avait écrit au cardinal archevêque de Paris, donc Mgr Lustiger, une très belle lettre, et dans laquelle il montre que Jérôme Lejeune, mort au matin de Pâques, on pouvait y lire le signe évidemment de la victoire de la vie et de la résurrection sur la mort, ce combat que Jérôme Lejeune a porté toute sa vie. Et il disait, en fait, c'était vraiment un signe de contradiction qui a mis toute sa science, toute sa sagesse au service du bien de l'humanité, au service du bien des patients et uniquement à leur service.
Sans considération des pressions.
Voilà, des pressions qui auraient pu être exercées sur lui. Voilà. Et à la fin... quand on est un peu habitué avec le langage du Vatican, on comprend à travers sa phrase, quand il dit, voilà, il est un modèle pour, je souhaite qu'il soit un modèle pour les chrétiens de France, pour toute la France et pour l'Église.
Pour l'Église.
Voilà. Donc quand on lit ça, on comprend que être un modèle pour l'Église de France et toute l'Église, c'est le principe d'un procès de canonisation, c'est que ce soit donné en modèle. Voilà, donc c'était évidemment une impulsion très forte. Après, il faut toujours attendre au minimum 5 ans entre la mort d'une personne et l'ouverture d'un procès de canonisation. Alors, Saint Jean-Paul II a fait une exception justement pour Mère Teresa. Son procès a été ouvert tout de suite après.
Et une exception pour les papes aussi.
Et c'est Benoît XVI qui a fait une exception pour Jean-Paul II.
Voilà. Pour Jean-Paul II, absolument. Santo subito.
Voilà, santo subito. Et voilà, donc Jérôme Lejeune, on a attendu un peu plus que 5 ans parce qu'après, il faut que les choses se mettent en place. Il faut... Tous les ans, il y avait des cardinaux de Rome, qui écrivaient à Paris, à l'archevêque de Paris, en disant il faut ouvrir le procès de canonisation. Et puis, en fait, dès que Mgr 23, le cardinal 23, a été nommé à Paris, c'était une des premières décisions qu'il a prises. Il a pris contact avec la famille Lejeune et puis la Fondation Lejeune en disant « je souhaite l'ouverture de ce procès ». Et c'est comme ça que les choses se sont enclenchées, donc en 2007. Alors après, c'est le procès diocésain, hein, je vous passe les étapes, mais le procès diocésain, c'est le moment où on recueille toutes les preuves, donc à la fois des témoins, donc il y a un tribunal, une commission d'enquête qui est nommée par l'évêque, qui va entendre tous les témoins, donc c'est plusieurs dizaines de témoins, c'est un gros travail, sur toute la vie du serviteur de Dieu, c'est-à-dire de son enfance, s'il y a encore des témoins de son enfance, jusqu'à évidemment sa mort, et dans le champ professionnel, personnel, familial, etc. Parce que vous savez, il y a des gens formidables au bureau qui sont odieux à la maison, ou le contraire. Bon, donc il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Et puis, il y a toute une enquête avec des historiens, des théologiens, et beaucoup de bénévoles de petites mains, dont on ne saura jamais les noms, très discrètes, mais qui doivent tout ressaisir avant de tout envoyer à Rome. Tout ressaisir, c'est-à-dire, il y avait plus de 100 000 pages de documents dans les archives de Jérôme Lejeune. Donc, il faut tout lire et tout saisir. C'est un travail extraordinaire. Ouais.
On n'a pas les copies.
Non, il n'y a pas de copies. Tout est ressaisi. Et tout est validé après par des notaires qui certifient que c'est conforme à l'original. Donc les notaires relisent les originaux et les copies. Donc c'est un travail de fourmi, enfin un travail de bénédictin. Mais... Donc ça a duré 5 ans. Puis on a eu cette très belle cérémonie de clôture à Notre-Dame de Paris en 2012. Et ensuite, tout est parti à Rome. Donc on avait 45 000 pages. Parce que sur les 100 000, on sélectionne quand même. On ne saisit pas les lettres qu'il a reçues, par exemple. Sauf si c'est une lettre du pape. Ou, voilà. Mais on écrit tout ce qu'il a écrit lui. On a ressaisi tout ce qu'il a écrit lui. Voilà, donc tout part à Rome.
Et avec vous ?
Et du coup, avec moi, puisque j'étais postulateur. Donc le postulateur doit habiter Rome pendant l'enquête romaine. Et là, on doit analyser tous ces documents pour écrire ce qu'on appelle la positio, donc la position du postulateur qui répond à la question posée par la congrégation des causes des saints. Et la question est-ce que ce serviteur de Dieu a vécu chaque vertu chrétienne à un niveau héroïque? Donc on doit apporter la preuve de chacune des vertus.
Ça, c'est pour la béatification.
Pour la vénérabilité, déjà. Pour la première étape.
Tandis qu'ensuite, il faut qu'il y ait un miracle pour les...
Voilà. Et du coup, une fois que vous avez déposé cette position, elle va passer toutes les étapes au sein de la congrégation et il va y avoir un vote des théologiens pour dire si oui ou non il a vécu chaque vertu à un niveau héroïque. Il peut y avoir éventuellement un aller-retour avec le postulateur s'ils veulent creuser un peu certains points qui auraient pu être oubliés. Et donc ce vote a eu lieu à la fin 2020 et le vote a été positif. Et donc le 21 janvier 2021, le Saint-Père a signé le décret reconnaissant l'héroïcité des vertus de Jérôme le Jeune. Donc il est vénérable depuis ce jour-là, depuis le 21 janvier 2021. Et depuis lors, eh bien, il y a toute une chaîne de prières dans le monde, beaucoup en France, mais dans divers pays aussi, pour demander un miracle, pour qu'ensuite, par son intercession, pour qu'il puisse être reconnu bienheureux.
Alors le postulateur de la cause à l'origine était Jean-Charles Nau, assisté par vous-même. Et puis, vous avez pris sa succession par la suite, comment ?
Oui, parce que alors, donc le père Nau était, dont Jean-Charles Nau était prieur de l'abbaye de Saint-Vendry, quand on lui a demandé...
De Saint-Vendry ?
Si... Oui.
J'ai été marié par un prêtre, par un moine de Saint-Vendry.
Ah ben voilà. Oui. Donc quand on lui a demandé s'il voulait bien être postulateur, ce qu'il a accepté avec joie, mais il m'a aussitôt demandé d'être vice-postulatrice, donc on a travaillé ensemble pendant tout le procès diocésain. Et après, quand commence le procès romain, donc je vous disais que le postulateur... du procès romain doit habiter Rome. Et donc, bien qu'il eût été très heureux d'aller vivre à Rome, il ne pouvait pas déménager avec toute son abbaye. Donc je me suis sacrifiée et je suis partie à Rome. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est sacrifié dans l'affaire ?
Oui, il y a des sacrifices plus durs que d'autres, je reconnais. Mais voilà. Et donc je suis devenue postulateur romain pour habiter Rome.
Alors votre travail actuel de postulatrice ?
Alors maintenant, ce n'est plus du tout du temps plein parce que le gros du travail est fait pour moi. Mais maintenant, c'est vraiment obtenir un miracle. Donc c'est quand même un travail de fond au sens où pour obtenir un miracle, il faut que les gens le prient. Pour que les gens le prient, il faut que les gens le connaissent. Donc c'est écrire des articles, faire des conférences, écrire des livres. Et puis je reçois beaucoup de courriers, de mails du monde entier, vraiment du monde entier, me demandant des reliques de Jérôme le Jeune, me demandant des images de prière, me faisant part de grâces qu'ils ont reçues. Donc certaines grâces, quand elles sont particulièrement quand même importantes, ça nécessite derrière une petite enquête ou une grosse enquête selon la qualité de la grâce pour savoir s'il y a peut-être un miracle. Les grâces, on en est sûr, mais pour qu'il y ait un miracle, il y a quand même des critères très précis. Oui. Donc parfois, donc ça nécessite quand même une enquête. Pour l'instant, les enquêtes n'ont jamais abouti à pouvoir aller jusqu'à une reconnaissance du miracle, même si on a bon espoir. Et puis aussi le suivi de toutes les initiatives. Par exemple, là, ce mois dernier, on a eu une université américaine en Géorgie qui a créé un bâtiment qui s'appelle le Vénérable Jérôme Lejeune Hall, qui sera le lieu de deux laboratoires, un de chimie, un de biologie.
Magnifique.
On a une école à Ottawa qui veut s'appeler Jérôme Lejeune.
On peut peut-être suggérer à certains de nos amis qui ont des amis maires récemment élus,
oui, bien
peut-être
sûr.
De donner le nom de rue.
Bien sûr, ça existe. Il y a une ville en Bretagne avec une rue Jérôme Lejeune.
Ah, ben voilà.
Il y a plusieurs endroits.
Il n'y en a pas beaucoup.
Pas beaucoup, parce qu'après, il y a une pression en France.
Il y a généralement une pression assez forte.
J'imagine.
Révisionnistes, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ce sont des bonnes initiatives. Il y a une guilde de médecins Jérôme Lejeune aux États-Unis. Il y a une association là, de 500 gynécologues espagnols qui me demandent à pouvoir s'appeler association des gynécologues Jérôme Lejeune. Donc ça, c'est les derniers exemples, mais il y en a beaucoup. En Italie, beaucoup. Là, il y a une très belle initiative d'un couple absolument incroyable. Lui était ingénieur, a visiblement dû avoir un brevet qu'il a vendu en gagnant un peu d'argent. Et ils ont décidé avec sa femme, ils ont 40 ans, ils ont décidé de dédier leur vie à Jérôme Lejeune, à l'entraide.
Oui.
Donc maintenant, il est devenu professeur de mathématiques. Elle est professeure d'anglais, je crois. Et avec l'argent qu'il a gagné, ils ont acheté une maison en disant, on ne sait pas pourquoi. Quelle œuvre encore on l'achète, mais on l'achète parce que quelqu'un un jour en aura besoin. Donc ils achètent cette maison. Dans les 15 jours qui suivent, ils vont à un dîner et ils rencontrent une jeune psychologue qui ne sait pas qu'ils ont acheté une maison et qui leur dit « Je suis sur un très beau projet d'un foyer pour jeunes trisomiques, tout est monté, on a les familles, on a tout le projet, mais on cherche maintenant une maison. » Et le couple leur dit « Nous, la maison, on l'a. » Et c'est comme ça que s'est créée cette maison Jérôme Lejeune à Pavie. Donc c'est incroyable.
Ça pourrait être un miracle, mais...
Non, ça c'est pas reconnu, mais c'est une grâce incroyable. Voilà. Donc maison Jérôme Lejeune, donc on y est allé, on a fait une conférence là-bas, enfin voilà.
Alors chers amis auditeurs, si vous avez quelque idée pour aider cette fondation Jérôme Lejeune ou pour promouvoir cette vie du professeur Lejeune autour de vous, faites-nous parvenir vos questions et nous allons y donner réponse, bien évidemment. Je ne voudrais pas, Jean-Marie Le Menay, ne pas évoquer la mémoire du professeur Jérôme Lejeune sans évoquer également celle qui fut sa compagne de vie, son épouse, Birte Lejeune, que j'ai bien connue et qui est décédée voici quelques années. Parlez-nous-en un petit peu de Birte Lejeune, qui était suédoise.
Danoise,
pardon.
Oui. Elle est morte en 2020, au moment du Covid, mais elle n'est pas morte du Covid. Elle est morte aussi assez rapidement après un cancer... qui s'est déclaré et qui était sans solution. Et donc, elle a eu une fin de vie assez rapide, mais une très belle fin de vie, parce que c'était justement à la période du Covid. On l'a pas laissée à l'hôpital, parce qu'elle y serait morte très vite. Elle était sans doute pas prioritaire. Elle avait plus de 90 ans avec un cancer inguérissable. Et on l'a gardée à la maison, dans sa maison à Paris, la rue Galande, que vous connaissez. Mmh. Et il y avait, puisqu'on était tous un peu désœuvrés, il y avait en particulier tous ses petits-enfants. Oui. Beaucoup de ces petits-enfants, dont certaines étaient infirmières, d'autres étaient...
Est-ce que je me trompe? Je crois que vous avez vous-même 9 enfants.
Oui.
9 enfants.
J'ai donné quelques petits-enfants à Jérôme Lejeune. C'est tout ce que j'ai fait, moi. C'est pas le plus difficile. Et donc tous ces petits-enfants...
Elle avait combien de petits-enfants, Birte Lejeune?
J'avais 28, je crois.
Oui.
Donc elle avait 28, oui. Elle avait commencé, je n'avais pas d'arrière encore.
Clara également a pas mal de...
Clara aussi,
oui. 7 ou 8 enfants.
7 ou 8, oui, 8, oui. Oui.
Parce qu'elle a adopté un enfant, je crois, parmi eux, c'est ça.
Oui. Et Anouk, 7.
Anouk, 7, oui, les filles jeunes ont été assez fécondes, on va dire.
Oui.
Voilà. Et Madame Jeune a été soignée, donc, à la fin de sa vie, par ses petits-enfants. Elle a vécu une espèce de nirvana, c'est un bien gros mot quand on a un cancer en phase terminale. N'empêche qu'elle a vécu heureuse. Et ce qu'elle craignait, c'était d'être toute seule à l'hôpital. Elle avait la peur de mourir toute seule à l'hôpital. Et en fait, elle est morte entre les mains de ses petits-enfants.
En famille.
Donc c'est une très belle... Et tout ça pour dire que c'était la clôture d'une très longue carrière, une troisième vie à la Fondation, parce que dès la mort de son mari, elle est devenue aussi vice-présidente de la Fondation Jérôme Lejeune, et elle a été extrêmement active, permanente, bénévole, et sur le front tous les matins et toute la journée. Donc elle a créé un lien très personnel et très intime avec beaucoup de donateurs. Elle écrit des petits mots à la main, oui. Les gens y étaient très sensibles. Moi, je sais que par exemple, quand j'allais en province faire des conférences, souvent les gens arrivaient, sortaient de leur poche.
Un petit mot.
Non, mais pas une collection de petits mots. Donc ils disaient, vous voyez, ça fait 10 ans que je donne à la Fondation, j'ai toujours eu un petit mot de Madame Lejeune. Et donc, non, elle a été vraiment la prolongation de son mari, le canal historique depuis sa mort.
Puis elle avait une mémoire
pendant 30 ans.
Incroyable. Par exemple, un
historique,
jour,
mort historique.
Oui, un jour, elle reçoit un message, mais en 2010, elle reçoit un message d'une dame qui habitait Angers, qui lui écrit un gentil petit mot, qui fait un chèque. Et Madame Lejeune voit ce mot, voit l'adresse, et dit, tiens, c'est drôle, je connaissais à cette adresse. On se souvenait de l'adresse. Il y avait une bénévole pour mon mari, au tout début de la fondation, pour mon mari, qui habitait à cette adresse-là, mais il y a 40 ans, mais qui n'avait pas le même nom. Et donc, elle répond à la dame, chère madame, merci beaucoup. Mais à cette adresse-là, il y avait une certaine mademoiselle, qui nous a aidés il y a très longtemps. Est-ce que, par exemple, vous la connaissez? Elle dit, ben oui, c'est moi, mais je me suis mariée en 30 ans. C'était quand même incroyable.
C'est extraordinaire.
Elle a une mémoire incroyable. Alors, évidemment, ça crée un lien familial, en fait, avec
c'est
tous les donateurs.
Il y avait un sens politique étonnant, parce que quelquefois, il y avait des gens qui se plaignaient à la fondation, qui écrivaient je ne comprends pas pourquoi vous avez écrit ça. Je ne comprends pas. Et elle prenait la peine de réécrire au monsieur ou à la dame qu'ils étaient emportés un peu rapidement et lui expliquer pourquoi. Et généralement, cette personne-là devenait un donateur de la fondation. Donc, non, elle avait un sens politique et un sens de l'à-propos absolument incroyable. Ben, vous l'avez connue, elle était atypique, c'est ce qu'on puisse dire.
Absolument.
Et ça a beaucoup rendu service parce qu'elle ne correspondait pas au canon classique. On pensait que le jeune était hyper classique. Elle n'était pas classique, c'est moi qu'on puisse dire.
Alors, nous allons écouter une annonce de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, chers amis auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostelan. J'anime cette émission sur le thème suivant. 100 ans après sa naissance, hommage au professeur Jérôme Lejeune, membre de l'Institut, généticien ardent défenseur de la vie. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Aude Dugast, philosophe de formation, auteur d'un ouvrage sur le professeur Jérôme Lejeune, postulatrice de la cause de canonisation du vénérable Jérôme Lejeune. Jean-Marie Leméné, gendre du professeur Jérôme Lejeune, magistrat honoraire, président de la fondation Jérôme Lejeune. Et Jean Larmande, administrateur de société, secrétaire général du Cercle Renaissance. Et puis, j'ai commencé évidemment par mon invité permanent Jean de La Fontaine tout à l'heure, mais pour faire une petite césure en milieu d'émission, je vais vous donner lecture d'une fable inspirée de Jean de La Fontaine par notre ami Yves Tarantic, dont je rappelle qu'il avait reçu le prix Renaissance de poésie des mains du professeur Lucien Israël, grand ami du professeur Jérôme Lejeune. Et je vous donne lecture de cette une fable qui s'intitule, de Yves Tarantic qui s'intitule « La cigale et la fourmi » de 2008. La cigale ayant frimé tout l'été, se retrouva à la rue dépourvue. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, lui déclarant en substance « La charité est un dû, assurez ma subsistance, secourez ceux qui sont nus. Vous galégez, ma commère, dit l'autre à la quémandeuse, suis-je sœur hospitalière? Votre oraison est fumeuse, car n'êtes-vous pas au fait, partagez, c'est déjà fait, vous touchez le RMI. Pour vous, les soins sont gratuits. Apprenez-en donc le prix. Ce sont mes nuits d'insomnie, car durant que vous chantiez, moi j'étais sur les chantiers, payant taxes et CSG, URSSAF et IRPP. Les charges et l'impôt foncier, c'est là plus que la moitié. Et vous vous croyez le droit de vous réchauffer les doigts en les fourrant dans mes poches? Gardez pour vous vos reproches, ou mieux, deux fois par semaine, relisez donc La Fontaine. Comme moi, il vous dira, aide-toi, le ciel t'aidera. Je le savais, c'était fatal, se mit à hurler la cigale. Vous n'êtes qu'une raciste, née d'un père esclavagiste. La possession, c'est le vol. J'exige une forte obole. La fourmi a dû casquer, mais elle en a plus cassé de ces cigales gauchistes en tête d'une nourrice qui entretiendra leur vice. Voici donc cette fable de Yves Tarantic à partir de La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. C'était un petit sourire en milieu d'émission pour... pour évoquer Jean de La Fontaine et en même temps le professeur Lucien Israël, grand ami du professeur Jérôme Lejeune. Je me retourne à nouveau vers Jean-Marie Leméné. J'aimerais que vous nous disiez ce que cet héritage du professeur Jérôme Lejeune, c'est un héritage à la fois chrétien, c'est un héritage de défense de la vie. C'est aujourd'hui, quel serait le combat du professeur Jérôme Lejeune à la veille des débats de l'Assemblée nationale?
Ah ben c'est une bonne question, parce que justement je me suis intéressé au dernier, au pluriel, au dernier combat de Jérôme Lejeune. Et à la fin de sa vie, il était extrêmement attentif au débat de la première loi de bioéthique. C'était en 94. Les premières lois de bioéthique ont été votées à l'été 94. Il était mort à ce moment-là, mais les débats avaient commencé à l'Assemblée nationale. Moi, j'allais à l'Assemblée à cette époque-là et je récupérais les rapports parlementaires. Je lui rapportais sur son lit à la maison et il les annotait. Je les ai gardés. Et en fait, quel a été l'objet de la première loi de bioéthique? C'était de légaliser une pratique qui existait mais sans cadre légal, la procréation médicalement assistée, la fécondation in vitro, le tri des embryons, etc. Et lui, il voyait tout ça écrit et se disait, ça va pas du tout, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. J'ai encore toutes ces préoccupations, qui défendra un jour l'embryon humain, sachant que après, on voit ce que c'est devenu. Enfin, on a ouvert la boîte de Pandore. Et donc, sa dernière préoccupation a été de se soucier du sort de l'embryon humain. La deuxième préoccupation qui était la sienne à la fin de sa vie, vous l'avez cité, parce que vous avez parlé de l'Académie pontificale pour la vie,
oui.
C'était d'écrire les statuts de cette Académie pontificale pour la vie que Jean-Paul II l'avait chargé.
Dont fait partie également Christine Boutin, je crois.
Non, elle a été consulteur
à la santé, je crois.
À la santé, peut-être, je crois, oui. C'est ça. Et à cette Académie pour la vie, Jean-Paul était très attaché,
oui.
Puisque c'est Jean-Paul II qui l'avait chargé de monter cette Académie. Et donc, il en faisait les statuts et il échangeait avec Rome par fax à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Et moi, je me souviens d'avoir transporté certains de ces fax ou des noms de personnes qui voulaient faire nommer par le pape, qui étaient solides. Donc, ça a été une préoccupation très forte. C'est là qu'on voyait le lien très fort qu'il y avait avec Jean-Paul II. Et puis, la troisième préoccupation, à la fin de sa vie, ça a été le linceul de Turin. Alors, il avait commencé un peu avant, mais vous ne l'avez pas évoqué, mais on aurait pu évoquer aussi ça, parce qu'il a été très proche de... Oui. Il apportait une réflexion scientifique, une petite goutte d'eau scientifique, dans ce débat qui est quand même très scientifique aussi, mais que lui avait apporté, mais très original, sur la manière dont le Saint-Suaire avait été plié, et effectivement plié et entretenu, entreposé dans une chasse, et il y avait eu des incendies, donc la chasse il y avait des gouttes de plomb ou d'argent qui avaient fondu et qui imprimaient le tissu de manière un peu géométrique puisqu'il était plié. Et donc avec ça, il avait réussi à montrer que la datation tardive au carbone 14 qu'on nous a imposé pour bien nous montrer qu'en fait tout ça c'était du baratin ne tenait pas puisqu'il y avait encore ces traces d'incendie qui étaient antérieures à la période de datation qui avait été déterminée par carbone 14. Oui. Donc ça l'amusait beaucoup, et puis en même temps c'était une œuvre à laquelle, enfin c'était un travail auquel il croyait, et il a eu à cet égard des réunions, même à Rome sur ces sujets-là, où il a défendu le fait que le Saint-Suaire était la propriété du pape personnel et non pas ne devait pas être celle de l'UNESCO ou de l'ONU, parce qu'il y avait des tentatives de donner ça comme patrimoine de l'humanité. Non, c'est la propriété de l'Église et en particulier du pape. Il avait aussi montré que c'était pas, contrairement à certains qui font du linceul de Turin un objet de foi, ça n'est pas au sens strict un objet de foi. Comme les miracles, on n'est pas obligé d'y croire. Sûr. Évidemment, il y a un faisceau d'indices tel que c'est très difficile de ne pas se recueillir devant cet objet. Mais c'était quelque chose auquel il tenait. Vous voyez, c'est les trois préoccupations-là, mais ça m'a marqué parce que c'était celle de la fin de sa vie, notamment. Alors, aujourd'hui, son combat, ce serait très certainement de défendre l'embryon humain qui fait l'objet d'une...
Et de refuser l'euthanasie.
D'une utilisation... Oui, il y a l'euthanasie, et puis tous les débordements, l'embryon humain étant aujourd'hui un matériau de laboratoire qui sert de rechange, puisqu'on ne peut plus utiliser l'animal. Donc les animaux de laboratoire sont protégés par la Ligue de protection des animaux, mais l'être humain ne l'est pas. Comme disait Jérôme Lejeune, l'embryon humain n'a pas de prix, il n'a même plus aucun prix. Et ça, il le voyait déjà avec beaucoup d'avance. Et c'est là qu'il a été aussi très avant-gardiste et très précurseur. C'est qu'il voyait en germe, dans cette première loi de bioéthique de 1994, tout ce qui allait se dérouler. C'est-à-dire que, en fait, on nous a présenté de manière totalement erronée les lois de biotique comme étant des garde-fous, des barrières. C'était le contraire. Ça a été un accélérateur de la transgression, en fait. C'était un tapis rouge qu'on a déroulé après année à la transgression. Et dans le seul but, pourquoi on mettait des lois ? Pour sécuriser les scientifiques qui faisaient ce travail. Donc quand on dit encadrer les dérives, ça veut dire accepter le principe d'une dérive, c'est-à-dire d'une transgression, et on en met les cadres juridiques pour que les gens n'aillent pas en prison quand ils font ce genre de travaux. Parce qu'il n'y avait aucune raison de faire de l'embryon humain un objet de laboratoire. Donc c'était très certainement la préoccupation qui le peinait à la fin de sa vie. Il savait quel était le sort qui serait réservé à ses embryons, et il savait quel était le sort qui était réservé aux enfants trisomiques dépistés.
Eh oui. Aude Dugast.
Et c'est vrai, quand on voit tous ces documents d'archives, on voit que le sort des embryons l'intéresse évidemment dès qu'il en est question, notamment en Angleterre, quand il y a ce fameux rapport Warnock qui dit qu'on peut travailler sur les embryons jusqu'à 14 jours. Donc il s'est beaucoup investi pour empêcher la publication de ce rapport. Il a même écrit à la reine d'Angleterre à ce sujet, une lettre qui est restée sans réponse. Et il a été invité à exposer ce qu'il avait à dire au Parlement anglais. Mais donc là, il le fait de façon très scientifique. Et ce qui me frappe dans les dernières années de sa vie, c'est qu'il y a eu donc ce grand procès de Maryville aux États-Unis, où il a défendu l'humanité des embryons congelés qu'un couple en cours de divorce se partageait. Donc le père disait il faut les détruire, ça n'est rien. La mère disait mais non, ce sont nos enfants. Et le juge disait c'est quoi ? Ce sont des choses ou ce sont des personnes ? Bon. Et donc c'était Jérôme Lejeune qui avait été invité à la barre. Donc un Américain avait dit au juge mais moi je connais un généticien excellent qui viendra de France pour les défendre. Donc il a fait une très très belle déposition à Maryville. Et à la fin, le juge, très impressionné par la déposition de Jérôme Lejeune, avait dit effectivement, ces embryons sont des êtres humains, donc on ne peut pas les détruire. Malheureusement, le mari avait été en appel et avait gagné, et donc les embryons avaient été détruits. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que donc ça c'était en 89, et donc à partir de là, chaque année, à Noël, il écrivait à son ami Martin Palmer, donc cet Américain qui l'avait invité à venir témoigner, qui était un grand défenseur de la vie, pas catholique, il était protestant. Et chaque année, à Noël, il lui écrivait en lui disant, voilà, à l'approche de Noël, je ne peux pas ne pas penser à ces embryons, à ces petits de Maryville qui ne verront pas le jour, alors qu'on va fêter la naissance du Christ. Et on sentait beaucoup d'émotion dans ses lettres, ce qui n'était pas le style habituel de Jérôme Lejeune. C'était toujours un style assez scientifique, assez intellectuel, mais aussi poétique. Mais là, on sentait comme un amour charnel pour ses enfants, pour ses embryons, vraiment comme si c'était ses enfants. Bon. Et c'est assez frappant dans les dernières années de sa vie. Et puis une autre chose qui m'a frappée alors là, c'est à partir même de 91-92, donc vraiment très peu de temps avant sa mort, il commence à dire dans ses lettres à des amis très proches, il commence à dire en fait, alors que toute sa vie, dans les prises de parole qu'il a eues, c'était toujours sur un plan purement scientifique, de la raison, la loi naturelle, donc que tout le monde pouvait entendre, même s'il n'était pas chrétien. Il ne faisait pas appel à des arguments de foi. Et là, dans les dernières lettres à ses amis, les dernières années, il dit en fait, aujourd'hui, le combat est tel qu'entre Faust et Jésus, il faut choisir, et maintenant, il faut l'annoncer. Il faut annoncer Jésus. Et donc, on a l'impression qu'il y a un petit déplacement et qui me fait réfléchir, comme si déjà au début des années 90, il se rendait compte que la loi naturelle n'était plus communément admise, que les arguments de raison qui jusqu'alors, effectivement, dans une discussion, on avait encore le même substrat philosophique, donc on pouvait se comprendre avec un peu d'écoute. Et là, déjà, à partir des années 90, comme s'il se rendait compte que cette loi naturelle n'était plus admise. Et maintenant, quand vous parlez de loi naturelle, c'est comme si vous faisiez une profession de foi. Enfin, on vous dit, t'es catholique. Ben non, je parle de loi naturelle, ça n'a rien à voir, c'est philosophique. Et donc, il disait, mais en fait, ça ne suffit plus. Et donc, finalement, pour réannoncer la vie, on est obligé de réannoncer la source de la vie, qui est le Christ, qui est Dieu. Donc c'est assez intéressant, parce que ce n'était pas sa ligne pendant toutes ces années de défense de la vie.
Il a souligné le fait que les temps contemporains ont amené un recul par rapport à la période latine, qui disait « infans conceptus
voilà. ».
L'enfant conçu a les mêmes droits.
Voilà.
Effectivement, c'est la reconnaissance d'un retour aux âges barbares.
Voilà. Et donc là, ils disaient, mais finalement, pour pouvoir déchirer ce voile de l'obscurantisme, eh bien, il faut. On n'a plus le choix. Il dit bien, on n'a plus le choix. Il faut réannoncer Jésus, quoi. Voilà.
D'ailleurs, il y a eu des problèmes de jurisprudence ces derniers temps, assez c'est curieux, assez cocasse. Je crois que dans l'affaire Palmade, où il y a eu un accident assez grave, je crois qu'il y avait une jeune femme enceinte. Dont l'enfant, évidemment, n'a pas survécu, l'enfant conçu. Et alors, à certains moments, on a considéré que c'était effectivement un dommage quantifiable. À d'autres moments, on a refusé cela.
Est-ce qu'il est mort ou pas mort? En fait, le problème juridique, c'était ça.
Mais en fait, on dit qu'il n'a pas respiré.
Voilà. Mort ou pas?
Comme il n'a pas respiré, finalement, je crois que le juge a dit bah, donc il n'y a pas d'homicide involontaire sur le fœtus. Mais ce qui était intéressant, c'est que Palmade, moi j'ai eu une interview de Palmade après, qui a dit quoi qu'a dit le juge, moi je sais que j'ai tué un enfant et je ne m'en remettrai jamais. Ouais. Intéressant. Lui a dit ça.
Le juge français ne veut pas indemniser ce type d'accident, qui pourtant est assez fréquent, parce que si on défend la vie de l'enfant avant sa naissance, ça veut dire que c'est un enfant. Et à ce moment-là, c'est une condamnation d'avortement.
Oui, mais
et
donc, tout à fait.
Alors que les juges ont toujours considéré que... Parce qu'on dit, oui, mais l'embryon ne devient une personne qu'à partir du moment où on lui reconnaît la personnalité juridique. Mais le juge a toujours défendu la personnalité de chair et de sang de l'être humain, même avant sa naissance. Donc c'est... Et ce type de...
Tout cela a bougé, a pas mal bougé, ouais. Il y a temps.
C'est-à-dire que si vous perdez votre petit chien pendant l'accident, vous pouvez attaquer à fond, vous serez indemnisé pour le petit chien. Si vous perdez votre enfant dans le ventre de votre femme, vous n'êtes pas indemnisé. Non, ça c'est terrible. Je reviens un instant sur le naturel, parce que je ne sais plus quelle était la citation, de qui est cette citation, mais disant, ôter le surnaturel, il ne restera même plus ce qui est naturel, en fait. Et donc, je pense que c'est
et le contraire est vrai.
Ôter le naturel,
vous n'avez plus accès au surnaturel. Ouais.
Alors, vous évoquiez les relations du professeur Lejeune avec des personnalités, le fait sa lettre à la reine d'Angleterre. Il a été également proche du roi Baudouin. J'aimerais que vous en disiez un mot.
Alors, je crois que d'ailleurs, il était venu après à Radio Courtoisie évoquer cette rencontre. Au moment où il était question de légaliser l'avortement en Belgique, évidemment, Jérôme Lejeune a été très bouleversé par cette annonce et a demandé à rencontrer le roi Baudouin. Et le roi Baudouin l'a reçu à Laeken, au palais de Laeken. Et Jérôme Lejeune n'a jamais raconté ce qui s'était dit. En revanche, ce qu'il a dit, c'était qu'il avait été très impressionné par le roi, qu'ils avaient longuement discuté et que le roi, ensuite, lui avait proposé de s'agenouiller devant une icône pour prier ensemble. Donc, ce qu'ils avaient fait. Et en revenant, Jérôme Lejeune avait dit « Autrefois, les Français avaient un roi chrétien. Aujourd'hui, ce sont les Belges qui ont un roi très chrétien. » Il avait été très impressionné, mais il n'a jamais dit l'échange, la teneur de leur échange. Ceci dit, quelques jours après, le roi Baudouin avait fait en sorte de pouvoir démissionner pour que cette loi ne passe pas avec son assentiment.
Ce qui était un acte extrêmement courageux en réalité, parce qu'on sait la situation politique de la Belgique, qui est un pays qui est divisé. Et le roi prenait un risque aussi sur le plan politique, indépendamment de la question même de l'avortement. Et d'après ce qu'on raconte, c'est que tout le monde lui conseillait de ne pas faire ça, de ne pas se mettre en retrait pendant 3 jours. Et il l'a quand même fait, songeant que c'était encore plus important que la question de l'unité du pays. Ce qui veut dire que ça va effectivement très, très loin.
Et il a d'ailleurs, provoqué l'admiration du monde entier, y compris de ses ennemis, qui ont quand même été très admiratifs de ce courage politique.
Et oui. Je vois un message d'une auditrice. Bonjour messieurs, planning familial et UNESCO, lors de la réunion du planning familial français et européen, entre guillemets. L'avortement en tant que tel ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire changer les mentalités. Parce que si l'on considère qu'une mère va jusqu'à tuer l'enfant qui est en son sein, on est capable de faire à tout le monde. Fermez les guillemets. C'est ce qu'expliquait Rockefeller dans sa lutte contre la fécondité et sa direction de promouvoir partout dans le monde l'avortement, qui était une manière d'habituer les gens à faire des choses contraires à leur nature et à leur conscience. Et puis un auditeur, un très grand plaisir, suite à l'émission du Libre Journal de Michel de Rostelan, quel qu'en soit le sujet, il est traité toujours avec justesse et élégance. Merci pour cette émission.
Il faut lire quand c'est
insatisfaisant.
C'est pas toujours grondé. Mais pour revenir sur le jugement de Salomon, justement, dans l'affaire de Marieville, il avait dit au juge, Jérôme Lejeune avait dit au juge, pour le convaincre, que l'embryon congelé était quand même un membre de l'espèce humaine, oui. Il avait dit au juge, vous allez prononcer un nouveau jugement de Salomon. Et donc, parce que vous vous souvenez de l'histoire de Salomon, oui. La femme disait, il faut le couper en deux. Ben, ouais. C'est, bon. Et un juge américain, les Américains sont plus pétris d'Ancien Testament que oui. nous, pour des raisons oui. qu'on connaît. Et le juge avait été très touché par ça. Et nous, on a revu le juge. Je ne sais pas si vous l'avez revu, non ?
Non.
Il est venu, en fait, il s'appelait Young, en plus, jeune. Oui. Ben, c'est comme quasiment le jeune, quoi.
Mm. Bon. Et l'avocat s'appelait Kristen Berry.
Voilà. Et donc, le juge est venu, une fois mis à la retraite, il est venu se recueillir sur la tombe de Jérôme Lejeune à Chalot-Saint-Marc. Pour un Américain, venir à Chalot-Saint-Marc, c'est quand même oui. c'est loin, quoi. Je me souviens, il a pleuré sur la tombe de Jérôme Lejeune. Il a été très très ému par le témoignage de Jérôme Lejeune. Nous, on en a été témoins. Et après ça, je crois qu'il est mort.
L'avocat Kristen Berry, qui a été interviewé dans un joli documentaire qui a été fait sur Jérôme Lejeune, qui s'appelle Au plus petit d'entre les miens. Et donc, il est interviewé sur ce procès de Marieville. Et à la fin. Il raconte donc comment cette entrevue s'est passée avec Jérôme Lejeune et il lui dit, je lui ai demandé mais pour qui travaillez-vous, et Jérôme Lejeune a dit pour mon roi, et il a dit alors si c'est pour votre roi je vous laisse la parole, c'est vous qui défendrez la maman. Et en fait, en disant ça, Kristen Berry a les larmes aux yeux et il arrête de parler parce qu'il pleure. Mais ce film a été tourné il y a 10 ans. Donc, c'est-à-dire 30 ans après. Ça. Donc, ils en parlent encore avec une émotion. C'est très étonnant. Moi, je n'ai jamais rencontré Jérôme Lejeune. Mais quand je vois toutes ces personnes qui en parlent 30 ans après, avec les larmes aux yeux, comme si c'était un moment très bouleversant de leur vie, c'est quand même très étonnant.
Alors, un autre aspect peut-être du professeur Jérôme Lejeune, avec sa rigueur scientifique, c'était la défense de la langue française. Et je pense qu'il refuserait le thème actuellement employé, l'aide à mourir, pour ne pas dire l'euthanasie. Il me semble que... Alors, je ne sais plus si c'est lui, j'essaie dans mes souvenirs, je ne sais plus si c'est lui qui avait dit, lors d'une conférence, qui avait évoqué l'ordonnance de Villers-Cotterêts, en soulignant que l'enfant portera le nom du père et l'épouse portera le nom de son mari, pour évoquer la transmission, la lisibilité de la filiation. C'était quelqu'un manifestement qui était précis et rigoureux dans ces termes choisis.
C'était un amoureux de la langue française, hein, parce que c'était à l'époque où lui, il a fait... il était très lettré, et pendant la guerre, où il était encore à l'école, et donc il n'allait pas à l'école, justement, et donc son propre père lui faisait faire des versions latines, quoi. En gros, oui. Il disait, voilà, tu fais des versions latines, c'est tout, pas besoin du reste. C'est-à-dire qu'il a une formation très classique d'homme de ces années-là, mais enfin, à la fois très scientifique, puisqu'il a fait médecine, mais en même temps, très classique. Donc il avait des lettres, comme on dit, et il adorait les lettres, il adorait les jeux de mots, il détestait les néologismes, les euphémismes, et donc il était très amoureux de la langue française.
Il ne supporterait pas l'expression « mourir dans la dignité ». Mourir dans la dignité, quel est le nom d'une association, c'est inimaginable. Comme si on pouvait mourir dans l'indignité.
Oui. Personne ne meurt jamais dans l'indignité. C'était un grand amoureux de la langue française, mais c'était aussi cette époque des gens de cette génération-là. Il adorait La Fontaine, les classiques.
Les Fables des Orbes.
Il lisait les classiques. Il aimait Chateaubriand. Il adorait. Il lisait beaucoup. Ce n'était pas du tout un scientifique enfermé dans les chiffres. C'était un scientifique qui était aussi littéraire comme l'étaient les gens de cette époque, souvent qui passaient les deux bachots, comme on disait.
Je vais essayer de voir ça. Il faudrait peut-être que Radio Courtoisie essaye de retrouver dans ses archives sonores les émissions avec le professeur Jérôme Lejeune.
Je crois qu'il y en a plein.
Oui, beaucoup, beaucoup.
Oui.
Ce qui serait particulièrement...
Vous auriez peut-être pu d'ailleurs les examiner.
On en a quelques-unes sur les cassettes. Là,
les fameuses cassettes qu'il fallait commander.
Maman, des boîtes à chaussures pleines de cassettes.
Absolument, c'est... Oui. Le problème,
on a moins d'images qui
bougent. C'est la numérisation ensuite de ces cassettes.
Oui, mais c'est un procédé qui est en bonne voie. Courtoisie, je crois, non, c'est peut-être pas fini d'ailleurs.
C'est extrêmement long. Moi, je sais que j'ai plus de 200 émissions qui sont enregistrées. Mais on remonte dans le temps.
On trouverait peut-être des pépites.
Oui. Alors parlez-nous un petit peu justement de cette campagne actuellement que vous développez, et il faut vous en féliciter, et surtout il faut requérir l'appui des auditeurs de Radio Courtoisie, cette campagne de publicité que vous faites dans les différents médias et en particulier avec cette annonce de cette vente du 23, c'est le 23 je crois,
avril,
je me trompe
oui.
pas, du 23 avril prochain.
Là, la vente à Drouot, c'est au bénéfice de la Fondation.
La Fondation.
À Drouot, c'est un peu, c'est différent.
Au bénéfice de la Fondation, oui, mais le bénéfice de la Fondation va vous permettre de donner des moyens pour accentuer votre campagne de publicité sur le thème qui vous sont chers.
Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on travaille en très bonne intelligence avec toutes les associations qui combattent l'euthanasie aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est important à souligner, oui. même aussi pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Je me souviens à quel point, souvent, quand on faisait des émissions sur des questions de bioéthique, quelquefois, les auditeurs posaient des questions en disant « Mais pourquoi vous ne vous entendez pas avec telle association, telle autre ? Si vous étiez tous ensemble, ce serait plus facile. » Bon, on sait ce que c'est.
Mais il y a une menace actuellement d'entrave à la loi sur l'euthanasie. C'est inimaginable.
Il y a un délit d'entrave. Il y aura un délit d'entrave. Bien sûr, comme pour l'avortement.
Comme pour l'avortement, c'est
ahurissant. C'était copié sur l'avortement.
Ahurissant.
Donc, en fait, ce qui est important, c'est de voir que c'est très, très difficile de combattre cette loi parce qu'elle est voulue par le président de la République personnellement. Il en a fait la promesse à Lynn Renault, vous comprenez ?
Oui.
Donc il passe de Lynn Renault au pape Léon XIV, avec la même familiarité d'ailleurs.
Oui, incroyable.
Voilà, coupable. Et donc c'était important de pouvoir travailler avec toutes les associations, et également il faut vous rappeler qu'on travaille aussi, on essaye de travailler en bonne intelligence, avec toute la partie médicale, en particulier tout le monde des soins palliatifs, parce que c'est une remise en cause. On pense que l'euthanasie, ça me concerne moi, ça ne vous concerne pas les autres, si moi je veux ça... les autres, ça ne leur fait rien. Mais enfin, c'est des professions entières qui sont menacées, c'est des spécialités, des expertises qui sont mises à néant. Quand vous pensez, par exemple, au travail des psychiatres, le psychiatre qui voit dans son bureau, dans son cabinet, arriver quelqu'un qui dit « j'ai envie de mourir », pour lui, c'est du pain quotidien. Je veux dire, il fait ça toute la journée. Donc, en fait, on tue le métier de psychiatre. On tue le métier des soignants en palliatif.
On les rend schizophrènes, en fait.
Donc, tous ces soignants-là, en fait, ça se fait contre l'avis du monde médical. Il faut bien voir ça, quand même. Donc, il était important de pouvoir travailler avec tout le monde, et c'est ce qu'on arrive à faire. Et je m'en félicite, je nous en félicite, parce que c'est pas fréquent, et ça n'était pas arrivé depuis très longtemps, que toutes les associations se mettent ensemble pour étudier les plans de communication, des plans stratégiques pour attaquer sur différents fronts et avec différents médias et différents moyens de communication.
Je crois qu'une des voies aussi qui aujourd'hui peut attaquer là-dessus, c'est la famille, les voisins, l'environnement de la personne qui est, entre guillemets, en fin de vie. Parce que ce qui peut se produire, c'est que l'euthanasie arrive, on l'envoie à de patresse, mais la famille va être désespérée en disant on n'a pas réussi à l'aider et à la sauver. Mmh. Et je pense que cet aspect-là, moi je l'ai vécu avec mon épouse, elle s'est décédée il y a 4 ans, mais c'est pour moi un des axes très importants, c'est pour pouvoir être capable, après le décès de quelqu'un, de se regarder dans la glace en disant ah oui, tu es pas un salaud.
Et des amis belges qui m'ont dit c'est épouvantable dans les familles. Parce que du coup...
Surtout, il y a la moitié qui est pour, la moitié qui est
contre. Il y a des enfants qui disent, du coup, on demande une euthanasie. Les autres qui disent, mais il n'en est pas question. Vous vous rendez compte? La violence du choix.
Oui,
déjà, parfois, vous dites, on met notre mère dans une EHPAD ou pas. C'est parfois compliqué. Mais là, est-ce qu'on demande l'euthanasie ou pas? C'est épouvantable, ça.
C'est le drame de toute affaire Vincent Lambert. Moi, j'ai reçu ici à multiples reprises, malheureusement, il n'était pas disponible aujourd'hui, sinon il serait parmi nous, maître Jérôme Triomphe, pour lequel j'ai une très, très grande estime, et qui s'est occupé de cette affaire de Vincent Lambert, précisément, et qui aujourd'hui traite également d'un dossier particulièrement sensible, qui est la mort du petit Émile, une autre affaire bouleversante. Mais Jérôme Triomphe, il a défendu mordicus cette affaire, Madame Lambert, qui essayait de sauver son fils, Madame Lambert qui est décédée maintenant, et son fils qui a été... qu'on a laissé mourir, c'est dramatique.
Mais on voit à quel point ça divise les familles. Avant, les familles se divisaient après la mort de l'intéressé pour la succession. Maintenant, ils vont se diviser avant. Donc, ça, c'est très important parce que, effectivement, comme vous le soulignez, les familles maintenant sont très éclatées parce qu'il y a des enfants qui sont un peu partout. Et donc, quand les médecins vous diront, écoutez, on ne peut plus rien faire, on lui a demandé, elle veut l'euthanasie, etc. Est-ce qu'on aura le temps de prévenir la fille qui est à Sydney, le fils qui est à Delhi? Donc, en fait, il y aura forcément des histoires, des disputes. Ça va arriver où? Dans le bureau du médecin qui va jouer à l'assistante sociale en disant « Oui, mais votre mère, etc. Enfin, » on crée des difficultés. La mort est un passage qui est une épreuve pour tout le monde, pour ceux qui restent et pour ceux qui partent. Mais ce n'est pas la peine de se créer des difficultés. Et l'idée qu'on va forcément mourir dans des souffrances atroces et qu'il faut à ce moment-là qu'on puisse garder le contrôle et la maîtrise, c'est une idée qui est fausse en tout cas. Et il y a bien des exemples de morts, qu'on arrive à un âge où on a quand même vu quand même des gens mourir, et de morts qui se passent bien en fait. Voilà, c'est toujours c'est une aventure incroyable, mais ça peut se passer bien. Et mourir dans le ressentiment et dans l'amertume en disant je vais mourir, les médecins veulent me prolonger, enfin qu'est-ce que c'est que ça? Et on peut mourir dans la gratitude plutôt, c'est quand même...
Et puis il faut marquer également notre très chaleureuse reconnaissance envers tous ces bénévoles qui s'impliquent dans les soins palliatifs. Moi je connais un certain nombre de personnes, parce qu'il y a des femmes, c'est souvent ce sont des femmes qui ont cette dimension de charité, qui sont bénévoles. Ça demande beaucoup de solidité,
d'équilibre.
De faire du bénévolat pour les soins palliatifs.
Alors à propos de femmes, il y a un exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple des petites sœurs des pauvres, qui sont dans le collimateur, parce qu'il n'y aura pas d'objection de conscience dans le texte de la loi d'aujourd'hui.
Exactement.
Il n'y a pas d'objection de conscience. Oui. C'est-à-dire que les petites sœurs des pauvres vont devoir procurer l'euthanasie à leurs pauvres.
Dans les EHPAD catholiques.
Mais les sœurs des pauvres, elles ont des EHPAD.
Donc ils fermeront.
Elles partiront en Turquie, on les acceptera probablement avec plus de dignité, c'est le cas de dire. Elles ont été très courageuses parce qu'elles se sont manifestées. Elles ont même été, grâce à Grégoire Pupin, qui est très actif aussi, un juriste que nous connaissons, qui vient aussi à Radio Courtoisie souvent, et elles ont été relayées dans leur prise de parole, très courageuses, jusqu'à l'ONU. Moi, je suis très choqué du fait que ça n'ait pas choqué les gens. Parce qu'on peut bouffer du curé, mais se dire quand même qu'à la fin de la vie, les petites sœurs des pauvres qui donnent leur vie pour les pauvres, c'est quand même respectable.
Tout à fait.
Et je trouve que dans le monde catholique, clérical et politique, on n'a eu aucune attention pour celles qui donnent leur vie aux pauvres. Oui. C'est inadmissible. Et cette loi va passer comme ça, sans qu'il y ait vraiment... L'indignation n'est pas partagée au bon niveau et par tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde quand même.
Rappelez-nous l'adresse de la Fondation Jérôme Lejeune, s'il vous plaît.
37 rue des Volontaires, Paris 15e.
Voilà, mes chers amis auditeurs, aidez la Fondation Jérôme Lejeune. Jean Larmand.
Je vais rebondir sur un livre écrit il y a 2 ans par Julia de Funès, qui est La vertu dangereuse.
Oui.
Et à mon avis, on est typiquement là-dedans. Je vais vous donner encore un exemple personnel. J'ai une de mes nièces qui avait déjà un enfant, et puis un autre enfant. Elle attendait un autre enfant, et là, examen, on lui dit... Elle ne vivra pas, elle n'est pas, etc., etc. Donc, avorter. Et ma nièce me dit, pas question, on verra bien, Dieu existe, les miracles, ça existe. Et l'enfant est né, bon, il y avait, le prêtre était là, pour le baptiser pendant les 4 secondes de sa vie, mais ma nièce me dit toujours, je suis très heureux de ce que j'ai fait, je n'ai aucun remords, je
n'ai
pas tué. Je l'ai pas tué. Et pour moi, ça, c'est un des éléments aujourd'hui, aussi bien pour les qu'il faut vivre. Mais regardez, on va devoir modifier la déclaration des médecins.
Le serment d'Hippocrate.
Le serment d'Hippocrate.
Qui a déjà été modifié première fois avec l'avortement, bien sûr.
Mais attendez, à propos de l'avortement, un jour, mon épouse était scientifique, elle faisait une thèse de doctorat d'État sur les ultrasons, et elle était sur les premières utilisations médicales des ultrasons. Et puis un jour, mon père, qui était professeur de médecine, a déjeuné, était professeur à Tours, lui dit, mais Marie-Thérèse, où en êtes-vous de votre thèse? Elle lui dit, ça y est, j'ai commencé à rédiger, mais je suis très choqué. Mais pourquoi? Mais parce que les médecins avec qui je travaille me disent qu'il ne faut pas que j'aille plus loin dans la capacité d'analyse des embryons. Des petits détails. Mon père lui dit pourquoi. Alors elle lui explique, il réfléchit un peu, il lui dit, mais bien sûr, parce que vous allez être capable de faire détecter le sexe d'un enfant dans la période d'avortement, et ça s'appelle de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on pourra choisir si on veut une fille ou un garçon. Et elle dit, et il me disait, donc vos médecins ont raison. Vous voyez, mais je pense que ça fait partie de notre vie aujourd'hui, et ça, on n'en parle pas assez.
Et là, surtout, on arrive à des points de non-retour, comme ça a été le cas pour l'avortement, et en particulier s'agissant de l'euthanasie. Il faut bien voir que l'euthanasie sera dans le code de la santé publique, Donc c'est en fait, ça veut dire que c'est un soin. Or, un soin, c'est parce qu'on nous dit aujourd'hui, oui, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas les enfants, il n'y aura pas les Alzheimer, il n'y aura pas les malades psychiatriques. À partir du moment où on dit que l'euthanasie est un soin, à qui
on peut le refuser.
À qui on va refuser un soin. On ne le refusera certainement pas aux enfants qui souffrent, etc. Donc en fait, c'est déjà foutu, entre guillemets, je veux dire, pour l'avenir. Parce que quand ce sera dans le code de la santé publique, bah, pour l'enlever, ça va être extrêmement compliqué. Et je pense qu'on ne mesure pas les dégâts sociaux que ça va entraîner. Alors, je pense que ceux qui veulent l'euthanasie ont probablement fait des calculs pour montrer qu'effectivement, si on diminue cette période d'âge très, très coûteuse, entre 90 et 100 ans, on fait des économies pour la sécu. Mais je pense qu'on n'en fera pas forcément en termes de dégâts sociaux que ça va...
Psychologiques.
Regardez, on commence à découvrir ça maintenant avec le changement de sexe.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, la personne de 18 ans qui a décidé de changer de sexe, c'est 4 ans après, se dit, ah là, je vais mais là, on va l'aider.
Remboursé par la sécu.
Il y a une perte... Moi, ce qui me frappe, c'est la perte de confiance que ça installe entre les patients et les médecins. En fin de vie ou en situation de maladie psychiatrique. On se dit, mais en fait, il va m'euthanasier, quoi.
Voilà, le jeune avait anticipé tout ça. Je pense qu'il a été un des prophètes de la fin du XXe siècle. Et qu'il a anticipé ces progrès fulgurants dans lesquels la sagesse ne s'y retrouve pas. Il avait une formule que je cite pour terminer, parce qu'on va devoir peut-être s'éclipser. Il disait, la technique est cumulative, mais la sagesse ne l'est pas. Et il disait, il n'y a pas de solution technique à la folie des hommes. C'est ce qu'il avait dit à Brejnev quand il avait été envoyé par Jean-Paul II pour parler de l'arme nucléaire. Il avait dit, voilà, il n'y a pas de solution technique à la folie des hommes. Et je crois que c'est parfaitement vrai. C'est en cela qu'il n'était pas seulement un juriste, mais aussi un philosophe, en fait. Voilà.
Et moi, je dirais même que c'était un prophète du 21e siècle. Parce que, justement, tout dans le cadre de la cause de canonisation, quand je vois toute cette réputation qui continue de s'étendre, et beaucoup de jeunes, tous ces jeunes médecins, maintenant, pour la première fois, on arrive à un moment où des jeunes choisissent de faire médecine pour suivre l'exemple de Jérôme Lejeune. Et un grand penseur américain, Pellegrino, qui travaille beaucoup sur les questions de bioéthique, il y a un institut Pellegrino à la Georgetown University, j'ai retrouvé un article de lui il y a quelques temps, où il dit, en fait, alors pardon pour le petit cochon, mais le leader, le leader dans le monde médical pour le siècle à venir, c'est Jérôme Lejeune. C'est lui qui nous montre le chemin d'une médecine véritablement respectueuse de la vertu médicale.
Et qui reste
et
humaine et hippocratique. Voilà. Parce que sinon, je veux dire, on sait aujourd'hui, des scientifiques qui sont plus scientistes que scientifiques nous disent, mais demain, celui qui aura raison entre l'intelligence artificielle et le médecin, ce sera l'intelligence artificielle. Alors là.
Non, écoutez, il faut vraiment vous remercier chaleureusement. Donc, chers amis auditeurs, vous écoutez le libre journal de Michel de Rostelan sur le thème 100 ans après sa naissance, hommage au professeur Jérôme Lejeune, membre de l'Institut, généticien ardent défenseur de la vie. Je peux rajouter également qu'il fut également président de l'Académie pontificale de la vie.
Oui, un court moment, puisqu'il est mort.
Absolument.
On sait le jour de Pâques, un mois après avoir été nommé président de l'Académie pour la vie.
Et j'ai eu le plaisir d'accueillir dans ce studio de Radio Courtoisie Aude Dugast, philosophe de formation, auteur d'un ouvrage sur le professeur Jérôme Lejeune, postulatrice de la cause de canonisation du vénérable Jérôme Lejeune. Jean-Marie Lemenné, gendre du professeur Jérôme Lejeune, magistrat honoraire, président de la Fondation Jérôme Lejeune, Jean Larmande, administrateur de société, secrétaire général du Cercle Renaissance. Et je rappelle, chers amis auditeurs, que le jeudi 23 avril prochain, très bientôt, à 18h30, à l'hôtel Drouot à Paris, salle 9, il y aura une vente caritative au profit de la Fondation Jérôme Lejeune, que préside précisément Jean-Marie Lemenné, au service du soin, de la recherche et de la défense des personnes porteuses de déficiences intellectuelles d'origine génétique. Vente caritative, donc le jeudi 23 avril à 18h30 à l'hôtel Drouot, sous le marteau de l'étude Libère. Voilà. Et alors maintenant, chers amis auditeurs, nous allons écouter en hommage à la mémoire du professeur Jérôme Lejeune, nous allons écouter un chant du chœur Montjoie Saint-Denis qui s'intitule « La prière de Brigande ». Ce chant est dédié à tous les enfants qui n'ont pas eu le bonheur de voir le jour parce qu'ils ont été avortés. Nous allons écouter donc ce chant du chœur Montjoie Saint-Denis, « La prière de Brigande ».
Saint-Denis. Vous venez d'entendre le libre journal de Michel de Rostolan, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 13 avril 2026, de 13h30 de midi à 13h30, et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.